France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, est-ce que ça existait, l'Europe ? Est-ce que ça comptait pour les Grecs ? Ce n'est vraiment pas facile de répondre. Le mot grec « Europe » et « Européen » existait bien, il était très connu, mais il était employé de plusieurs manières. En disant « Europe » et « Européen », on pouvait dire un morceau de terre, une partie du monde, le pays ou le continent Europe. L'Europe, c'est ce qui n'était pas l'Asie ou l'Afrique. Les Grecs anciens ne disaient pas « Afrique », mais la Libye. Le mot valait pour tout le continent africain. Mais « Europe » et « Européen » pouvait désigner aussi un être vivant, une princesse ou une divinité. Il y eut plusieurs femmes célèbres qui se sont appelées Europe. Et il arrivait que dans un même souffle, dans presque la même phrase, Europe soit d'abord l'héroïne d'une histoire, d'un mythe, puis juste après, une réalité géographique, l'Europe comme territoire.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Le mot est européen. Se prêtait très bien à cet emploi double. En grec, Europe était un nom très clair, qui allait d'abord parfaitement bien pour une femme. Il disait « celle qui a un regard opé, ample et héros, et pouvait donc désigner une personne aux grands yeux, ou qui embrasse beaucoup de choses dans son regard. » Europe était le nom d'une femme extrêmement belle et imposante. Mais Europe pouvait aussi dire simplement « large, étendue ». Comme cela arrive souvent dans les langues, une partie du mot a perdu sa valeur précise. Et le sens de regard pour les syllabes de la fin du mot, opé, s'est peu à peu oublié. Ainsi, on pouvait dire d'une grotte grande et profonde qu'elle était Europos, large. Europé pouvait donc très bien être le nom d'une ample région du monde. Ça ne gênait pas du tout les Grecs de passer brusquement d'un sens à l'autre, de la personne divine ou humaine, à un nom de terre, de lieu. Les deux étaient liés. Derrière le nom de pays ou de continent, il y avait l'histoire d'une femme. Mais quelle femme ? Quelle histoire ? C'était la même chose pour les deux autres continents, Asie et Libye, le nom grec de l'Afrique. Ces noms disaient des terres dont on connaissait plus ou moins la forme, l'étendue, les montagnes, les fleuves, les peuples. Mais c'était aussi des femmes de légende, de mythes, Asiae et Libuae. On racontait leur naissance, leur mariage, déplacement. Leurs aventures. D'un point de vue strictement géographique, si on donne à Europe un sens territorial et non pas personnel, mythique, les Grecs savaient très bien que la Grèce était en Europe et pas en Asie ou en Afrique. Mais qu'est-ce qu'ils appelaient Europe ? Ce n'était pas clair. Parfois, on est vraiment étonné. Il pouvait même arriver que l'Europe ne soit qu'une partie de la Grèce et pas l'inverse. Le mot Europe et Europée désigne alors la Grèce continentale, à l'exception des îles et de l'énorme presqu'île qu'est le Péloponnèse. C'est ce qu'on lit dans la toute première mention d'un sens territorial pour Europe. On la trouve dans un poème qui a été par les anciens attribué à Homère, un hymne à Apollon. Le dieu dit qu'il va établir près d'une fontaine qui s'appelle Telfousa, un grand sanctuaire où il donnera ses oracles. Des Grecs de toutes les régions de Grèce vont venir l'interroger.
Là, j'entends construire un temple très beau, sanctuaire prophétique pour que les hommes qui, toujours, conduiront pour moi, en ce lieu des hécatombes parfaites, tous ceux qui tiennent le gras Péloponnèse et tous ceux qui tiennent l'Europe et les îles au milieu des flots, venus interroger l'oracle.
Parfois, au contraire, l'Europe est très vaste, c'est tout un continent. C'est tout ce qui n'est pas l'Asie et la Libye. À l'est, l'Europe s'étend jusqu'à un fleuve de la Géorgie. Le Phase, un fleuve qui se jette dans la mer Noire. Ce fleuve s'appelle aujourd'hui le Rioni. Il marque la frontière avec l'Asie. C'est ce que nous dit Eschyle, le poète tragique.
Là, on arrive au grand terme double de la terre d'Europe et de l'Asie, le Phase.
À l'ouest, vers le couchant, vers les ténèbres, il y a l'océan Atlantique, mystérieux. Pindare, le poète, déconseille de s'y aventurer. Des conseils d'aller plus loin que la ville de Cadix, l'antique Gabès, de dépasser vers l'ouest les colonnes d'Hercule.
Au-delà de Gabès, vers les ténèbres, on ne passe pas. Tourne dans l'autre sens la vergue de ton bateau, vers le continent Europe.
En fait, beaucoup de navigateurs avaient franchi cette limite et étaient allés reconnaître les côtes d'Afrique et d'Europe du Nord. Côté nord, on ne savait pas si l'Europe était bordée par une mer, comme le sont l'Asie et l'Afrique. Pour l'Afrique, on était sûr. Des navigateurs phéniciens avaient fait en 3 ans le tour de l'Afrique, d'est en ouest, en partant de la mer Rouge, en doublant le cap de Bonne-Espérance, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, et en revenant par les colonnes d'Hercule et la Méditerranée. Après un certain temps de navigation vers le sud, ils avaient eu la surprise de voir le soleil à droite, c'est-à-dire côté nord, et non pas sur leur gauche, vers le sud, comme ils en avaient l'habitude. Ils étaient passés dans l'hémisphère sud. Mais un savant grec du 5e siècle avant notre ère, Hérodote, n'a pas cru dans leur récit, car cela ne correspondait pas à sa représentation du monde. Les savants discutaient sur la forme, l'étendue et les limites de l'Europe et des autres continents. Mais on a souvent l'impression que les Grecs s'en fichaient un peu de définir l'Europe, de fixer ses limites avec précision. Ils étaient Grecs avant tout, et comme Grecs, ils pouvaient aussi bien vivre en Grèce, ou sur une côte d'Afrique du Nord, ou sur les côtes d'Asie mineure, les côtes de la Turquie actuelle, ou sur les bords de la mer Noire, ou bien côté ouest, à Marseille. Pour eux, cela ne faisait pas une grande différence. Ce qui comptait, ce n'était pas vraiment la géographie, mais l'histoire. Les Grecs savaient que depuis le début, ils avaient été en conflit avec l'Asie, avec une grande ville du continent asiatique, Troie, qu'ils ont mis 10 années très pénibles à vaincre et à ravager. Ils savaient que cette guerre n'avait en fait pas cessé. De l'Asie sont venus à plusieurs reprises des armées dangereuses menées par les rois de la Perse. Il a fallu les combattre durement. Avec l'Afrique, la Libye, c'était moins frontal, moins hostile, mais décisif. L'Afrique est un moment essentiel du passé grec. Libye, Asie, Europe, le monde est cadastré, organisé. Mais dans ce cadre bien établi, rien n'est fixe. Les peuples, les héros et héroïnes changent tout le temps de lieu. Ils traversent les mondes, les frontières, dans des allers-retours surprenants. Rien ne les arrête. Il n'y a pas de racines. Ça va bouger. Il y aura des histoires mouvantes de migration dans tous les sens. Ce n'est donc pas un hasard si la première fois que les noms d'Europe et d'Asie figurent ensemble, c'est dans un catalogue de divinités marines. Ces déesses sont filles du dieu Océan et de la déesse Thétis, avec un Y, pas comme Thétis, la mère d'Achille, avec un I. Le couple divin primordial et bienveillant, par excellence. Avec ces filles, qui sont au nombre de 3000, Océan et Thétis ont donné naissance à des puissances qui protègent l'humanité. Elles aident les jeunes gens à grandir, elles favorisent la richesse, la croissance du bétail, et elles sont brillantes, rapides, comme les courants et le scintillement de la mer. Le poète Hésiode nous présente ces déesses favorables dans son poème sur la naissance des dieux.
Thétis mit au monde la race sacrée des filles qui, sur la terre, élèvent les hommes dans leur jeunesse, avec l'aide du seigneur Apollon et des fleuves. Elles tiennent cette fonction de Zeus.
Suit une série de noms propres. Tous notent un aspect positif, lumineux, fécond de la vie humaine et de ses lieux marins. Il y a persuasion, paeto, celle qui donne, Doris, chevaline, hippo, rapide, toe, richesse, pluto, rose, rhodeia, soucieuse du bétail, melebosis, femme de poupe, prumno, rocheuse, petraie, dionée la favorable, savante, iduia, flot rapide, okuroe, sainte de flot, amphiro, blonde, xanthé, chance, tuke, intelligence, métis, doré, cruseis, parfaite, telesto, vêtue de safran, etc. Dans la série, il y a Europe et Asie. On trouve aussi Libye, dans une version plus récente du catalogue des filles d'Océan et de Thétis. Les grandes terres que sont Europe, Asie et Libye sont donc perçues comme des forces bénéfiques liées à l'eau, à la puissance féconde de l'océan, cet immense fleuve qui qui encercle l'ensemble du monde et qui lui donne son unité. L'océan est, pensait-on, à l'origine de tous les fleuves, de toutes les sources de la Terre. Europe, Asie, figurent dans cette liste des enfants d'Océan et de Tétis, car elle déploie cette puissance génératrice et bénéfique. On associe la croissance des jeunes gens à la force des fleuves. Comme des eaux fécondes, Europe et Asie nourrissent, renforcent leur population. Europe, Asie, chez Hésiode, ne sont pas d'abord une terre, un territoire, mais une force d'épanouissement, une force océanique. Il y avait, de par le monde, plusieurs sources qui s'appelaient Europe.
Je ne peux respirer qu'en plein vent. Maladie héréditaire. Prends-moi dans tes bras, océan. Prends-moi comme tu as pris mon père. Tournée tout entière, comme tu as pris mon père.
France Inter.
Prends-moi comme tu as pris mon père.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe nous parle d'Europe, la princesse venue d'Asie.
Pour l'instant, Europe n'est encore qu'un nom. Elle prendra plus de consistance quand elle se fera humaine, quand elle deviendra un vrai personnage de légende, une princesse. Il y a eu plusieurs princesses Europe, au moins 5. Parcourir la liste des Europes permet de voyager. La plupart de ces Europes franchissent les frontières entre les continents. L'une d'entre elles est une Europe du Nord, de Thrace, au nord de la Grèce. Elle a épousé un prince asiatique en exil, dont nous parlerons, Cadmos, qui est le frère d'une autre Europe. Une autre Europe est une Europe du Sud, fille égyptienne du dieu Nil. Elle va se marier avec un Égyptien d'origine grecque, et cela donnera les 50 Danaïdes, 50 filles d'Égypte, qui vont devoir se réfugier en Grèce, dans la ville de leurs ancêtres, à Argos, car leurs cousins, les Égyptiades, les poursuivent d'une ardeur implacable, dont elles ne veulent tout simplement pas. Une autre Europe, fille d'un géant, aura des liens avec l'Afrique par ses descendants. Il y a une autre Europe encore, qui semble bien grecque cette fois, et seulement grecque. Elle a épousé Atrée, un fils du roi Pélops. Elle ne s'est permis qu'une seule escapade, un adultère sur place, en tombant amoureuse de son beau-frère. Ça a mal tourné et a donné l'histoire affreuse des Atrides. Mais à l'origine, les ancêtres de ces Atrides régnaient en Asie avant de s'exiler pour la Grèce. Un des membres de cette famille errante s'appelait Europe. On dit qu'elle a eu en Grèce une fille ou une sœur qui est repartie vers l'Asie, vers son origine lointaine pour y pleurer. Car des dieux jaloux ont massacré ses 12 enfants. Cette sœur ou cette fille d'Europe pleure encore aujourd'hui. C'est Niobé, transformée en un rocher, d'où suintent des larmes. Les Europes fourmillent. On est déjà à 6 femmes qui portent ce nom. On s'y perd. Ce n'est vraiment pas grave si vous ne retenez rien. Une chose ne change pas. Le nom propre, Europe, semble bien renvoyer toujours à la même idée, celle d'une fluidité, d'un passage entre des mondes différents. Ces Europes n'ont pas de lieu à elles. Elles bougent. Elles perdent leur origine. Mais il en manque encore une dans la liste. L'Europe la plus connue. Celle que nous allons raconter. C'est une Europe de l'Est. Elle vient d'Asie, de Phénicie, l'actuel Liban. C'est elle, selon plusieurs auteurs anciens, qui aurait donné son nom à notre continent, l'Europe. Cette princesse Europe n'est pas européenne. Elle est la fille d'un roi asiatique, d'un roi de la Phénicie. Zeus l'aurait enlevée en prenant la forme d'un taureau et l'aurait emmenée en Crète, où il lui fit des enfants de grand renom.
Hans Wismann, philosophe.
Le mythe a toujours une fonction explicative. Et dans ce cas, et on va trouver ce thème tout au long des problématiques européennes jusqu'à aujourd'hui, c'est l'arrachement, c'est la séparation qui est le véritable thème de l'acte d'esprit qui fait naître l'Europe. Parce que l'Europe n'est pas un gène, n'est pas quelque chose qui se développe naturellement à partir de données qui se trouveraient déjà dans la réalité, géographique, démographique, que sais-je. Non, l'Europe naît d'un geste. Et ce geste, c'est le geste de séparation. Et la première séparation qui fait naître l'Europe, et cette séparation va se répéter au cours de l'histoire, c'est la séparation d'avec l'Asie.
Il faut se demander d'où vient la famille de cette Europe asiatique phénicienne. On va encore être surpris. On va encore assister à une errance, à un voyage. La Phénicie n'était pas le lieu d'origine de cette famille. La famille d'Europe vient d'Égypte. Et avant l'Égypte, elle venait de Grèce. Tout bouge, tout le temps, dans tous les sens. Tout commence en Grèce, dans la ville d'Argos, bien au cœur du Péloponnèse. Tout commence et va se répéter avec le désir amoureux du dieu suprême, Zeus. Ce désir impérieux, terrifiant, auquel on ne peut résister longtemps, va forcer les mortels à bouger, à ne pas tenir en place et à accepter de grands déplacements à travers le monde. Il n'y a pour les mortels aucun chez-soi qui compte. Zeus peut toujours être là, vous désirer et vous obliger à partir ailleurs. Dans l'histoire de cette famille, l'obligation divine de s'exiler va prendre la forme d'une vache ou d'un taureau, d'un animal docile ou d'une force implacable, taurine, magnifique et brutale. Ça commence avec un être bizarre, un fils d'océan, qui était à la fois un fleuve et un être à forme humaine. Ça pouvait arriver. Le roi Inakos, roi de la ville d'Argos. Décidément, tout est aquatique, fluide dans cette histoire. Cet Inakos avait une fille, très belle évidemment, Io, que Zeus a repérée et désirée. Tout le problème pour Zeus était d'arracher cette fille à la surveillance de son père et aussi à la surveillance de sa femme, la déesse Héra, car la jeune Io était une servante de la déesse dans son temple. Zeus trouve un moyen. Il assaille la jeune fille avec des rêves, où il lui demande de quitter la maison de son père et de le rejoindre dans une prairie. Io se voit obligée d'obéir. Des oracles disent à son père que si elle n'obéit pas, sa famille sera anéantie. Héra, l'épouse légitime de Zeus, avant de la faire. Elle transforme Io en vache pour que Zeus, son mari, ne puisse pas s'unir avec elle. Et contre cette Io métamorphosée, elle envoie un insecte, un taon, qui ne cessera de la piquer, de l'aiguillonner. Io doit fuir. Io, poursuivie par l'insecte, part dans une course infinie. Elle parcourt l'ensemble du monde côté Orient. Elle traverse les régions, les peuples les plus invraisemblables. Elle connaît le froid extrême des sommets enneigés et la chaleur des déserts. Elle arrive enfin dans le lieu béni de l'Égypte, là où le Nil déploie son vaste et fécond delta. Elle accouche d'un enfant de Zeus et fonde une famille qui va décider du sort de toute la Grèce. Plusieurs enfants naissent d'elle. Ils donnent leur nom à plusieurs peuples du monde, en Afrique, en Égypte et en Asie, en Grèce. De grandes migrations auront lieu à partir de la ville d'Égypte où Io a accouché.
Dido Likoudis, metteur en scène.
C'est l'errance d'une victime qui n'est pas lucide de son errance. Io, elle court devant les morsures du temps. Et elle remonte la mer Ionienne, elle passe par la plaine panienne, par Zagreb, Osijek, Vukovar. Ensuite, elle remonte vers le Caucase, elle redescend vers la Jordanie, Byblos, le Liban, pour redescendre certainement vers la péninsule arabique, passer en Afrique, remonter. Voyez-vous, tout ce périple de Io, c'est un périple qui actuellement, si on voulait le faire, on passerait toujours dans des points d'histoire douloureux.
Un des descendants de cet Io exilé en Égypte par la volonté de Zeus est Agénor, qui pour une raison ou pour une autre s'en est allé vers l'Asie, en Phénicie, pays qui correspond au Liban actuel. En Phénicie, Agénor devient roi. Il aura une fille, Europe, et un fils, Cadmos. Là, j'ai simplifié à l'extrême. Il y a plusieurs versions de l'histoire de cette famille. C'est très embrouillé. Parfois, on dit que ce n'est pas Agénor, mais un certain Phénix, frère ou fils d'Agénor, qui était le père d'Europe et de Cadmos. C'est incertain. Ce Phénix est le héros qui a donné son nom à la Phénicie, le lieu de naissance d'Europe et de son frère, Cadmos. Ce frère et cette sœur auront un rôle essentiel dans l'histoire de la Grèce. Europe, quand elle devra s'établir sur une île, la Crète, fera croître la puissance marine de la Grèce. Cadmos va fonder en pleine terre continentale grecque une ville bien terrestre, bien ancrée dans le sol, autochtone et fabuleuse, la mythique Thèbes. Le destin d'Europe n'est pas de rester chez elle en Phénicie. Elle sera, par la volonté de Zeus, arrachée à son lieu d'origine et entraînée de force vers la Crète. C'est l'histoire bien connue du grand taureau qui l'emporte sur la mer. Tout cela à cause du désir amoureux de Zeus. De même qu'il avait repéré la jeune et belle Io, qui a dû transformer en vache courir le monde depuis la Grèce jusqu'à l'Égypte, Zeus, sous la forme d'un taureau, obligera Europe à quitter sa terre natale. Beaucoup de poètes ont raconté cette histoire. Un de ces poètes s'appelle Moskos. C'est un Sicilien, un poète savant, qui connaît à fond les traditions poétiques. Il est venu travailler dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, au IIe siècle avant notre ère, et a écrit une petite épopée sur l'enlèvement d'Europe par Zeus. Comme pour Io, ça commence par un rêve, où la jeune fille voit qu'elle est l'objet d'une dispute entre deux femmes. Une femme qui paraît être sa mère, c'est l'Asie. sa terre natale, et une autre, une étrangère, encore anonyme, ce sera l'Europe. Voici le tout début de ce poème.
Un jour, Aphrodite envoya à Europe un doux rêve. À l'heure où s'installe la troisième part de la nuit, tout près de l'aurore, quand un sommeil plus doux que le miel s'assied sur les paupières, briseur de membres, et enchaîne la lumière des yeux dans un tendre lien. À l'heure où, conduit par un berger, s'ébroue le peuple des rêves véridiques. À cette heure-là, dans son profond sommeil sous le toit de la maison, la fille de Phénix, l'encore jeune vierge Europe, eut le sentiment que pour elle se battaient deux grandes parties du monde. L'Asie et celle qui lui fait face. Elles avaient toutes les deux une allure de femme. L'une avait l'apparence d'une étrangère, l'autre semblait indigène. C'est elle qui tenait le plus à Europe, comme on tient à sa fille. Elle disait qu'elle l'avait mise au monde, qu'elle l'avait nourrie. L'autre la prenait de force dans ses paumes puissantes et l'entraînait sans qu'Europe ne résiste, car la femme disait que par ordre de Zeus porte égide, le destin d'Europe était d'appartenir aux dieux. Effrayée, la fille sauta hors des couvertures de son lit, secouée dans son cœur, car le rêve avait l'évidence d'une vision vraie. Assise, elle resta longtemps muette. Les deux femmes occupaient encore ses yeux grands ouverts.
La jeune Europe est stupéfaite par l'amour, par la tendresse que lui manifeste la femme qui n'est pas sa mère. Et Europe découvre qu'elle est elle-même saisie par le désir de rejoindre cette étrangère.
Longtemps après, la jeune fille fit se lever en elle une voix pleine d'effroi.
Qui ? Quel être du ciel a lancé ces visions sur moi ? Ils sont quoi ces rêves qui volent dans ma chambre, au-dessus des étoffes de mon lit, alors que je dormais d'un si doux sommeil ? Qui est cette étrangère que j'ai vue en dormant ? Comme le désir d'elle m'a pris le cœur. Quel accueil dans son regard, comme si elle voyait un enfant à elle. Que les dieux bienheureux accomplissent ce rêve pour mon bien.
L'amour maternel, l'amour de l'Asie pour sa fille Europe, va devoir s'incliner devant l'amour de l'étrangère et devant l'attirance que cet amour nouveau, inconnu, suscite chez la jeune fille. Europe va s'arracher à son origine, à sa terre natale, et devenir par cet arrachement, par la perte de son origine, véritablement Europe, celle qui a donné son nom à une grande terre lointaine, inconnue, au-delà de la mer. Comme le dit le poète T.S. Eliot.
Home is where one starts from.
Chez soi, c'est là d'où l'on part.
Dans le rêve, Europe suit la belle étrangère de son plein gré. Dans l'histoire réelle qui va suivre, avec la rencontre de Zeus, c'est plus compliqué. Europe sera emportée malgré elle vers sa nouvelle destination.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Blue sky smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Pierre Judet de Lacombe raconte les errances d'Europe, la princesse venue d'Asie.
Encore sous le choc de ce rêve de rupture, de séparation d'avec son pays natal, Europe cherche à se faire plaisir. Elle appelle ses compagnes. Elle leur demande de se préparer pour aller danser et pour cela de se laver au bord de la mer, à l'embouchure d'un fleuve, et de cueillir des fleurs. Europe est celle qui cueille le plus de fleurs. Elle les rassemble dans une grande corbeille forgée en or. Cette corbeille magnifique a une histoire qui déjà relie les trois continents et préfigure le destin d'Europe. La princesse ou déesse Libye, à savoir l'Afrique, l'avait donnée à la mère d'Europe. Elle avait été forgée par le dieu Héphaïstos. Sur elle, le dieu forgeron a représenté les voyages de Io, la princesse grecque chassée de chez elle et forcée de rejoindre l'Égypte.
Dessus avait été forgée une foule de raffinements scintillants. Dessus, il y avait forgé d'or Io, la fille d'Inachos, quand elle était encore génisse et n'avait pas sa nature de femme. Vagabonde, elle marchait sur les chemins salés de la mer comme si elle nageait. La mer était façonnée en azur sombre.
Tout est déjà là. Europe sera une seconde Io, mais cette fois d'Asie vers la Grèce. Avec ses compagnes, Europe s'amuse. Mais la jeune fille ne pourra pas réchauffer longtemps son cœur avec le plaisir des fleurs. Voilà qu'apparaît la force virile, Zeus, qui a pris l'aspect d'un grand taureau blond avec une belle tache blanche sur le front. Il s'est fait doux et pacifique pour ne pas effrayer. Il marche vers la jeune fille et entame une manœuvre de séduction. Europe est attendrie.
Il vint à la prairie et son apparition n'effraya pas les filles. En toutes, il y eut le désir d'être tout près, de caresser un taureau si charmant. Son odeur immortelle portait loin, plus éclatante que le délicieux parfum de la prairie. Il s'arrêta juste devant Europe, l'irréprochable, et lui léchait longuement le cou. Il enjôlait la jeune fille. Elle ne cessait de l'embrasser. Tranquille, elle essuyait de sa main l'écume abondante qui sortait de sa bouche. Elle donna un baiser au taureau. Alors, il mugit avec une douceur de miel. On aurait cru entendre la haute voix délicate d'une flûte phrygienne. Devant elle, il plia les genoux. Il fixa Europe de ses yeux, tourna le cou et lui fit voir son ample dos.
Europe n'a pas peur. Elle monte sur le dos de la bête en souriant. Brusquement, le taureau s'élance. Il se précipite vers la mer. La jeune fille, effrayée, appelle ses compagnes, qui ne peuvent rien faire. Le taureau se met à courir sur la surface de l'eau. Les habitants de la mer font un triomphe à ce voyageur improbable, le dieu suprême, devenu taureau marin.
La mer, quand il avance, se fait mer d'embellie. Les monstres marins bondissent de joie devant les pieds de Zeus. Depuis les fonds, le dauphin, par plaisir, joue à l'acrobate sur les ondes. Les Néréides émergent de l'eau salée. Toutes ensemble, assis sur le dos des monstres de mer, elles sont en ligne. Et lui, à la surface des eaux, Poséidon, ébranleur de la terre au vacarme profond, dirige la vague. Il ouvre la route marine à son frère Zeus. Autour de lui s'assemblent les tritons, joueurs de trompe aux graves échos marins. Depuis leur long coquillage, ils font monter le chant des noces. Elle, assise sur le dos de taureau de Zeus, tenait d'une main la grande corne de la bête, et de l'autre serrait sur sa poitrine les plis d'une pourpre, pour que dans son emportement, l'eau divine de la mer grise ne l'inonde pas. Gonflée comme un sein sur ses épaules, la robe profonde d'Europe, pareille à une voile, donner de la légèreté à la jeune fille.
Zeus conduit Europe vers l'île de Crète. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce long voyage pour rejoindre une île perdue en pleine mer, loin de tout? La Crète a été un lieu essentiel dans l'existence de Zeus. C'est là, dans une grotte des montagnes, qu'il a été élevé avec une chèvre. Zeus échappait ainsi à la cruauté de son père Cronos, qui ne pouvait s'empêcher d'engloutir dans son ventre tous ses enfants juste après leur naissance, pour qu'ils ne viennent jamais contester son pouvoir. Zeus, lui, a pu grandir, puis prendre le pouvoir de son père. Faire venir Europe en Crète pour qu'elle engendre des fils de dignité royale, c'est un retour aux sources, au lieu d'origine de Zeus. C'est permettre aux humains d'avoir des chefs, qui lui ressemble. Une fois débarqué sur l'île de Crète, une fois que Zeus a quitté son apparence bovine, Europe doit subir l'union du dieu. Zeus lui fait un joli cadeau, un collier d'or fabriqué par Héphaïstos. Europe devient mère. Elle a trois fils, Minos, Radamante et Sarpédon. Pensant à l'avenir d'Europe, Zeus lui trouve un mari, le roi de Crète. Il élèvera les enfants. Minos, le fils aîné, deviendra à son tour roi de Crète. Il restera proche et aimé de son père, Zeus, qui viendra régulièrement dans la grotte de son enfance pour lui donner des conseils. En ce sens, Minos est un modèle de roi éclairé, bien inspiré pour établir des lois justes, puisque c'est Zeus en personne qui le guide. La Crète, grâce à Minos, grâce à ses lois d'origine divine, deviendra un pays somptueux, riche, pacifique, bien gouverné, un modèle politique cosmopolite. Pays marin, tourné vers l'aventure, vers le large, et attirant de nombreux peuples lointains, la Crète sera à la fois le pays d'une diversité unique et chatoyante de populations, de langues, et le pays de l'unité. Elle sera à elle seule un condensé de toute la Grèce, un modèle pour le continent, l'Europe. Homère en fait un vif éloge.
Il y a une terre, la Crète, bien au milieu de la mer, couleur de vin. Elle est belle et plantureuse, couronnée de flots. Là, les hommes vivent en foule infinie, dans 90 villes. Les langues des uns et des autres se mélangent. Là, on est achéen, ou on est crétois authentique et grand de cœur, ou kidonien. On est dorien en trois tribus, ou pélage divin. Parmi ces villes, il y a Knossos, l'immense cité. Là, Minos a été roi pendant 9 saisons et confident du grand Zeus.
La Crète reproduit en elle-même la diversité de toute la Grèce. On y est aussi bien crétois de souche, authentique, comme dit Homère, qu'arrivant de l'extérieur. Cela est indifférent, car un même régime de justice règle la vie de tout le monde. La Crète est le lieu où Zeus, enfant, a été éduqué. Avec le fils d'Europe, Minos, confident politique de Zeus, elle est le lieu où Zeus éduque l'humanité. Mais ce lien privilégié avec Zeus ne suffit pas pour faire de Minos un bon roi. Au contraire, Minos a beau être conseillé par Zeus de temps en temps, il n'est pas un Zeus sur terre. Mais il se prendra pour Zeus et ira d'outrance en outrance. Il se croira libre, tout permis, en raison de son origine. Un jour, il n'a pas hésité à vouloir tromper un dieu, Poséidon. Devant tout le monde, il proclame que si Poséidon fait sortir des eaux de la mer un grand taureau, il le lui sacrifierait. Un immense et beau taureau surgit, mais Minos décide de le garder pour lui et ne sacrifie à Poséidon qu'une bête de seconde zone. Le dieu se venge. Il s'arrange pour que la femme de Minos tombe amoureuse du taureau qu'il a fait apparaître, et cela donnera un monstre, mi-homme et mi-taureau, le Minotaure, un être effrayant que Minos s'empressera de cacher dans le labyrinthe. Radamante, le deuxième fils d'Europe et de Zeus, on ne sait pas très bien ce qu'il a fait. C'était, nous dit-on, un homme juste qui a fini immortel dans l'île des Bienheureux. Il y donnait, paraît-il, des conseils de justice aux dieux. Quant à Sarpédon, le troisième fils d'Europe, il est reparti en sens inverse vers l'Asie. Il est devenu le roi lumineux, prestigieux, d'un resplendissant royaume asiatique, la Lycie. Généreux, chevaleresque, Sarpédon est allé prêter main forte à ses voisins, les Troyens, contre l'envahisseur grec qui tentait de reprendre Hélène, enlevée par un prince de Troie. Sarpédon a donc combattu l'armée de son pays d'origine. Les Crétois étaient évidemment du côté grec. Sarpédon a joué un grand rôle dans cette guerre, où Patrocle, l'ami d'Achille finalement, l'a tué, ce qui a plongé son père Zeus dans une immense tristesse.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Mm-hmm. tant de mers, tant de rivages, tant de ciels, de paysages, j'ai vu tant d'escales et tant de ports. J'ai pu me chauffer au creux des îles, me cacher au fond des villes. J'ai pu marcher sur des sables d'or. J'ai vu des matins de joie, de chagrin, de rire et d'envie, de peine et de bonheur dans ma vie. J'ai cru être au bout de l'aventure, mais mon cœur, lui, me murmure qu'il y a tant de rêves à vivre.
Judée de la Combe raconte les enfants d'Europe qui ont fait la Grèce et l'Asie.
Aucun voyage, aucun exil n'est donc définitif. Aucune traversée de la mer n'est irréversible. Les grands personnages de cette famille ne cessent de changer de rivage, de société, et sont féconds et souverains partout, même dans des lieux qui deviennent ennemis entre eux. Ils vont et viennent. Ces déplacements incessants entre les terres d'Europe, d'Asie et de Libye donnent une image mythique de la colonisation massive des rives de la Méditerranée par les Grecs, toujours entreprenants et bons marins. Mais ces histoires d'errance disent aussi autre chose. Tout établissement quelque part, aussi fastueux, glorieux soit-il, est un arrachement, une séparation. Europe elle-même traversera la mer en sens inverse. Sans doute de manière normale sur un bateau, et non à dos de taureau. Elle retournera en Asie, là où vit le plus jeune de ses fils, Sarpédon. Dans une de ces tragédies, dont nous n'avons plus que quelques fragments sur papyrus, le poète Eschyle nous présente une Europe âgée, triste. Sa vie ne lui donne aucun plaisir. Son fils aîné, Minos, est mort. Son deuxième fils, Rhadamante, est immortel, mais il vit loin d'elle. Quant au troisième, Sarpédon, il est vivant, mais il est parti faire la guerre à Troie, aux côtés d'Hector, contre les Grecs. Il suscite chez sa mère les plus grandes angoisses, et de fait, il va mourir là-bas. Un papyrus nous livre plusieurs lignes de cette plainte d'Europe vieillissante. Ce n'est pas gai. Voilà ce que dit la vieille Europe.
Eh bien, je dirais cette foule de malheurs en peu de mots. Femme humaine unie à un dieu, j'ai perdu l'honneur de la virginité et j'ai été soumise au joug commun de la procréation. Trois fois mon champ fertile a tenu ferme dans les souffrances de la mise au monde et n'a pas refusé de porter à la lumière les nobles semailles de ce père. J'ai commencé par la plus grande floraison, la naissance de Minos.
Manque ici plusieurs vers qui devaient rappeler la mort de Minos. Europe parle ensuite de Rhadamante, son deuxième fils. Il est préservé de la mort, puisque les dieux l'ont rendu immortel. Mais il vit loin des yeux de sa mère.
puis Radamante, le seul de mes enfants qui soit indestructible. Mais il poursuit sa vie loin de l'éclat de mes yeux. Absent, il n'offre aucun plaisir à ceux qu'il aime.
Quant au troisième, Sarpédon, il est en grand danger.
Le troisième, il déchaîne aujourd'hui une tempête dans mes pensées. Sarpédon, avec la peur qu'une lance venue d'Arès ne le touche.
Europe, déjà déchirée par l'angoisse, ne mettra pas longtemps à apprendre la mort de son fils sous les murs de Troie et à voir apparaître son cadavre que les dieux, sommeil et mort, ont transporté par les airs jusqu'à son palais où sa mère l'accueillera pour ses funérailles. La princesse Io, la première errante, est allée contrainte par Zeus et par Héra de Grèce en Égypte. Un de ses fils est allé en Asie, en Phénicie, où il est devenu roi. Zeus a obligé Europe, la fille de ce roi, à partir avec lui pour la Grèce, pour l'île fabuleuse qu'est la Crète. Un des fils d'Europe et de Zeus est retourné en Asie, où il a fait la guerre à Troie contre les Grecs. Zeus l'a laissé mourir. Sa mère, Europe, est allée pleurer ce fils chez lui, en Asie, loin de la Grèce. L'histoire n'est qu'un va-et-vient entre les trois continents. La même famille peut habiter les trois, se déplacer, se déchirer. Le monde est ainsi à la fois un et divisé. Aucune racine ne tient dans ce monde ouvert et commun où chacun peut changer de place. Au 5e siècle avant notre ère, l'historien Hérodote a entrepris d'écrire à nouveau cette histoire. Sa préoccupation était de comprendre le grand choc qui vient d'avoir lieu entre la Grèce et l'Asie quand à deux reprises les Perses, peuple d'Asie, ont essayé d'envahir la Grèce. Ils ont été battus par les Grecs à Marathon, puis à Salamine. Selon Hérodote, cette entreprise à la fois grandiose et ratée d'invasion fait suite aux histoires que nous avons racontées. Hérodote reprend ces histoires avec humour. Il les reconstruit à sa manière, en les débarrassant de tout l'appareil mythologique et divin que n'ont cessé de colporter les poètes. Pour comprendre l'hostilité des Perses envers la Grèce, Hérodote donne la parole à des savants perses et leur fait raconter toute l'histoire selon leur point de vue. Ainsi, d'après ces savants, la princesse Io, fille d'Inachos, a bien quitté Argos, mais pas sous l'aiguillon de Zeus et d'Héra, mais parce qu'elle était séduite par les jolies marchandises que proposait un bateau phénicien. Les marins phéniciens s'emparèrent d'elle et la conduisirent en Égypte. Évidemment, nous apprend Hérodote, les phéniciens ne sont pas d'accord avec cette version. Europe, selon ces phéniciens, aurait eu une aventure avec le capitaine du bateau, puis découvrant qu'elle est enceinte, elle se serait enfuie. Selon les Perses, qui tiennent à leur version, l'enlèvement d'Io a été le début fatal d'un enchaînement d'enlèvements et de vengeance. L'antagonisme entre la Grèce et l'Asie était lancé.
Le rapte d'Io fut le premier incident qui commença la série des torts. Plus tard, disent les Perses, certains Grecs, ils ne peuvent pas préciser leur nom, abordèrent en Phénicie, à Tyre, et ravirent la fille du roi, Europe. Ce pouvait être des Crétois. À ce moment, on était à égalité. Mais par la suite, les Grecs se rendirent coupables de la seconde offense. Ils gagnèrent par mer avec un vaisseau long, la nef Argo, Aïa de Colchide, et les rives du fleuve Phase. Et de là, après avoir mené à fin les autres affaires pour lesquelles ils étaient venus, ils enlevèrent la fille du roi, Médée. Le roi des Colchidiens, le pays de Médée, envoya en Grèce un ambassadeur pour demander satisfaction de cet enlèvement et réclamer sa fille. Mais les Grecs leur répondirent qu'ils ne leur avaient pas donné satisfaction pour l'enlèvement de l'Argienne Io, et que, dès lors, eux non plus ne leur donneraient pas satisfaction. À la génération suivante, Paris, fils de Priam, qui avait entendu parler de ces événements, prit fantaisie de se procurer une femme en Grèce par le moyen d'un rapt, bien persuadé qu'il ne serait pas puni, puisque ceux dont on parlait ne l'étaient pas. Lorsque dans cette idée il eut enlevé Hélène, les Grecs décidèrent tout d'abord d'envoyer des députés pour la réclamer et demander satisfaction de son enlèvement. Mais quand ils produisirent ces demandes, on leur objecta l'enlèvement de Médée.
La guerre de Troie s'est donc déclenchée. Troie a été détruite. Les Perses se considèrent comme solidaires de Troie. En attaquant la Grèce plusieurs siècles après, ils pensent venger Paris, Priam, Hector et tous les Troyens. Des blocs d'hostilité se seront constitués. Mais Hérodote, et en cela il est fidèle au mythe que nous avons raconté, rappelle que pour lui, il n'y a pas de bloc homogène, Europe et Asie, mais des échanges, des emprunts, des transformations réciproques, rien les fixe. Les Perses, eux, ont voulu se constituer en empire homogène, absorbant les peuples. Un empire qui ne se préoccupe pas des différences entre la Phénicie, la Troie, la Lycie et les autres royaumes ou cités d'Asie. De même que Vladimir Poutine considère comme russe tout ce qui est autour de lui, la Perse impériale a voulu s'identifier à l'Asie. C'est encore Hérodote qui parle.
Les Perses, en effet, considèrent comme étant à eux l'Asie et les peuples barbares qui l'habitent. Et ils tiennent l'Europe et le monde grec pour un pays à part.
Le mythe d'Europe et de ses enfants montre qu'il n'y a pas pour les Grecs ce genre de bloc compact. La frontière entre les continents est constamment franchie. Et la Grèce est elle-même diverse. Elle n'a pas d'unité profonde. Elle est multiple, divisée en un essaim de cités qui se proclament toutes autonomes.
Hans Wismann, philosophe.
Europe a été arrachée à son milieu naturel, sa famille. Elle est séparée de ses sœurs. Et la séparation qu'incarne cette mythologie, qui ensuite chez Hésiode devient une réflexion sur le destin de la partie occidentale du monde face à la partie orientale. Cette séparation, et c'est peut-être par là que ça prend tout son sens, n'est pas la séparation d'un ennemi au départ. Ce n'est pas la séparation qui permet de se barricader dans ses certitudes et de se défendre contre ce qu'on déteste. Non, c'est la séparation d'avec soi, puisque Europe est arrachée à tout ce qu'elle était, à savoir sa famille. Et cette séparation d'avec soi signifie ouverture à l'altérité.
Sur la Terre.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Des archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.